Pauline Pucciano, Le Porphyre et l'Albâtre, Chapitre 8, Insolence et consolation. Eleanor avait été un peu surprise lorsqu'on l'avait prévenue que ses deux fils désiraient la voir au beau milieu de la matinée. Ils ne venaient que rarement au palais de la gouvernance et jamais pour des motifs privés. Artus, l'air fermé, et Nox, l'air arrogant, l'attendaient dans le vestibule et, après les avoir salués, elle leur demanda ce qui les amenait. « Je souhaite échapper un peu aux joues d'albâtre, mère, comme toi en ton temps, » dit Nox. « Que veux-tu dire ?» Que j'en ai assez de ces leçons interminables et de ces travaux collectifs fastidieux. J'ai envie de passer quelques jours en forêt avec mes amis. » Eleanor fronça les sourcils. Elle regarda Artus, qui évitait son regard. « Et toi aussi ?»« Non, » dit Artus. « À vrai dire, je ne sais même pas pourquoi il m'accompagne, » remarqua Nox. « Il réprouve totalement ma démarche. » Eleanor se sentait de plus en plus perplexe. « Qu'est-ce qui te prend, Nox ? Pourquoi vouloir partir comme ça maintenant ? Je ne sais pas, notre père et Daïla sont bien partis, eux. Pourquoi seraient-ils autorisés à quitter leurs obligations et pas moi ? » Eleanor avait lancé un appel mental à Artus. « Refuse, » avait-il répondu. « Je comprends ton désir, Nox, mais il m'est impossible d'y accéder. Aucun passe-droit ne doit vous être donné sous prétexte que vous êtes mes enfants. Je croyais que vous l'aviez compris. »« Compris, oui, » siffla Nox, « mais pas accepté. » « Mais enfin, quelle mouche te pique !» s'impatienta Eleanor. « Nous avons 15 ans et l'on nous traite comme des enfants, » dit Nox d'un ton peu convaincant. « En vérité, tu n'as fait la révolution que pour imposer ta propre dictature. » Eleanor, bouche bée, se demanda comment il fallait réagir à cette insolence caractérisée. C'était la première fois que Nox réagissait de cette façon, et cela l'affectait plus qu'elle n'eût voulu le dire. « Quitte ce palais, Nox, je n'ai pas de temps à perdre avec tes provocations. » « Tu resteras à Albâtre et tu feras une double ration de travaux collectifs si tu n'apprends pas à maîtriser tes humeurs. » Nox fit un mouvement de rage contenu et sortit précipitamment. Artus parut hésiter un moment. Il adressa à sa mère un regard angoissé et fit mine de suivre son frère. « Pourquoi le suis-tu, Artus ?»«
C'est compliqué, maman. Je pense qu'il fomente un mauvais coup. »«
Un mauvais coup ? Mais que se passe-t-il à la fin ?»
Artus s'arrêta un moment. La personne de sa mère lui était si chère qu'il ne pouvait se résoudre à la laisser dans l'incertitude. « Je m'occupe de Nox, maman, et papa va bientôt revenir. Toi, tu dois t'occuper d'Albâtre, et nous savons que tu as fort à faire. »«
Je t'aime, » ajouta-t-il mentalement.
À Eleanor sourit. Leurs mains se touchèrent et leurs esprits s'embrassèrent, un bref instant, dans la lumière bleue de sa demi-lune. Puis Artus se dégagea et courut à la poursuite de son frère. Il ne le retrouva pas, ni dans la cour du palais, ni dans les rues et les jardins avoisinants. Quelques heures plus tard, Nox apparut au cours de Crécia, avec un retard notable, accompagné de Tibère. Si ce dernier avait les joues échauffées et semblait ivre, Nox, lui, paraissait très calme. Crécia, qui n'était guère habitué à de telles façons, ne le prit d'abord pas pour une provocation. « Entrez, jeunes gens, vous m'expliquerez ce qui vous est arrivé à la fin du cours, je préfère continuer. Comme je le faisais remarquer avant votre arrivée, le poète Gildras a une manière très aboutie de faire coïncider la forme et le sens, et si j'ose dire, sa petite musique particulière est reconnaissable entre toutes. » L'invitation était si courtoise que les deux jeunes gens manifestement venus pour en découdre ne purent se dérober au fait de prendre place dans leurs divans respectifs. Mais il ne se passa pas un quart d'heure avant que Nox émit un bâillement énorme et tonitruant. Tous les visages se retournèrent vers lui, et Crécia cette fois fronça les sourcils. Sa pierre frontale verte s'alluma presque instantanément, et la voix de Verbe retentit, pleine d'autorité dans la salle, où pendant un instant on n'avait entendu que le murmure des fontaines. « L'enfant ignorant se plaît à imiter les gestes du sage et à en essayer le costume, mais il se couvre de honte en prenant son jeu au sérieux. Enfants en devenir, vous êtes le renouvellement magnifique de l'intelligence humaine, qui suit dans le chemin de votre enfance les pas du progrès de l'histoire. » Mais avant que d'être la proue du navire qui vous porte, vous devrez remonter de la cale où vous êtes né et gravir chaque escalier de cette nef. ou bien vous conduirez le navire à sa perte, dans la précipitation et l'aveuglement qui vous feront mépriser les conseils et les enseignements de ceux qui voient loin à l'horizon lorsque vous peinez à voir le bout de vos pieds. Le temps seul, en sa course lente et majestueuse, fertilise la sagesse. » Tibère, malgré son ébriété, adopta aussitôt une attitude contrite. Christian ne s'attarda pas sur lui, mais sur Knox, qui, imperméable au verbe, n'avait en rien rabattu son orgueil. « Bien parlé, l'ami. Tu deviendras peut-être plus sage avec le temps. » Christian fit luire sa pierre frontale très intensément, sans doute pour contrôler un accès de colère. « Comme le disait le poète Gildras, » continua Knox, « dans les brouillards du temps, les vérités palpitent comme cœurs arrachés aux racines des corps, brouillant heures et jours, fécondation et mort, dans le battement pur de continuelle fuite. Et à propos de fuite, je vous salue. » Il sortit alors nonchalamment, sous les yeux réprobateurs de l'ensemble du groupe, et Chrysia fit preuve d'une remarquable maîtrise d'elle-même pour poursuivre le cours le plus calmement possible. Artus, cependant, ne put écouter un mot de ce qu'elle disait. Il était très inquiétant que Knox se conduisît ainsi, et encore plus inquiétant qu'il fût à ce point imperméable au verbe. Artus sentait que l'heure des basculements inéluctables avait sonné. Ils avaient vécu si longtemps dans cette zone intermédiaire de faux-semblants et de compromis que la réalité avait fini par perdre de sa saveur. Il avait toujours su que ce moment viendrait, mais d'une certaine façon, il ne l'attendait pas. Ce n'était jamais maintenant, et même jamais demain. Et soudain, sans crier gare, l'urgence avait remplacé l'attente, et chaque petit événement prenait un relief singulier. Le discours de Chrysia, même s'il y avait machinalement résisté, dans la liberté absolue que lui offrait l'absence de pierre frontale, l'avait replongé dans la conscience aiguë de sa solitude et de son manque de moyens. Le mal qu'il combattait était sans égal, sans exemple, et il était en ce moment précis, seul en albâtre, au moment où il passait à l'action. Ne fallait-il pas en parler vaille que vaille à Eleanor? Il lui répugnait de prendre cette décision sans en parler d'abord avec Keller, mais Keller était loin et il fallait bien agir. Après avoir utilisé longuement des techniques de relaxation pour évacuer tous les paramètres irrationnels de sa réflexion, Artus se remit à réfléchir, calmement. La priorité absolue demeurait de conserver son masque. Il devait se comporter comme s'il ne comprenait pas l'importance de ce qui se tramait. Il devait réagir comme un simple adolescent de 15 ans face aux incartades de son jumeau. Il devait manifester de la rancune, de l'incompréhension, peut-être même essayer de lui faire la morale. Si Sornard se doutait, si peu que ce fût, qu'il était percé à jour, c'était non seulement lui, Artus, et Knox, son malheureux jumeau, qui risquait de mourir, mais la cité tout entière qui serait livrée à une prédation sans merci. Il valait mieux accepter de perdre du temps et laisser Sornard exécuter le dessein qu'il avait en tête plutôt que de tout compromettre. Avec un peu de chance, ses premiers frémissements ne seraient pas irrémédiables. « Artus ! Artus !» disait Chrysia. Et le jeune homme comprit qu'elle l'appelait depuis un moment et qu'il était trop absorbé dans ses réflexions pour l'entendre. « Oui ?» Un bref coup d'œil alentour lui apprit que tout le groupe était parti. À travers l'embrasure de la porte, il aperçut la silhouette de Gretel qu'il eut une envie presque irrépressible de rejoindre, mais la professeure de versification avait posé sur lui des yeux inquisiteurs qui ne lui laissaient d'autre choix que de rester. « Eh bien, Artus, qu'as-tu à me dire ?» Le ton était sec, et Artus fit un effort pour contenir son exaspération. Il arrivait souvent que les gens les confondent, non pas consciemment bien sûr, ni au point de les prendre l'un pour l'autre, mais que l'un d'eux ait été méritant ou fautif, c'était souvent l'autre qui en récoltait les lauriers ou qui en subissait les conséquences. Pour être plus exact, de manière générale, Knox s'attirait une partie des récompenses dues à son frère, tandis que lui, Artus, ne récoltait en général que des réprimandes tacites et des gestes de mauvaise humeur, dont il n'était pas le moins du monde comptable. « De Knox, je n'ai que le visage, » dit-il d'une voix neutre. « Je ne réponds pas, mille merci, de ses paroles ni de ses actes. » Chrysia ouvrit la bouche pour protester, puis se ravisa. Son ton se radoucit. « Bien sûr, Artus, tu n'as rien à te reprocher. Simplement, je me demandais si tu avais des éléments d'explication sur la scène désagréable que nous avons vécue tout à l'heure. « Je suis aussi abasourdi que vous, » dit Artus. « Je ne sais pas quelle mouche le pique. Il a été insolent avec notre mère tout à l'heure et maintenant avec vous. J'ai l'impression qu'il me fuit pour éviter toute discussion avec moi. »« Tu as raison. J'aurais mieux fait de retenir Tibère. Peut-être. En tout cas, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Tu n'as pas à être désolé, Artus, dit Chrysia avec un sourire. Les dons remarquables de ton frère le rendent parfois très arrogant. La comparaison permanente ne doit pas être facile à supporter. Tu es un jeune garçon très prometteur, Artus, et tu as des qualités morales qui compensent largement... Qui compensent quoi ? Demanda Artus d'un ton piqué. Mon infériorité physique et intellectuelle ? Artus ne jouait qu'à moitié la comédie du jumeau jaloux. Certes, il savait qu'il était plus doué pour l'esprit que la plupart des citoyens d'Albâtre, et il savait aussi que la supériorité de Sornar était largement due à ses 50 ans d'avance dans presque tous les domaines. Mais cela ne changeait rien au fait que, en dehors de sa mère, de son père et de Gretel, absolument tout le monde préférait Nox à lui, même Daïla. Sa place d'éternel second n'était pas imaginaire, elle était bien réelle dans le regard de toute une cité, et cela mettait entre lui et le monde une sorte de distance infranchissable. « Je suis désolée, » dit Chrysia, en esquissant un geste d'excuse de l'ancienne albâtre. Artus la regarda droit dans les yeux et fit à son tour un geste de l'ancienne albâtre, la main droite tendue vers elle et la main gauche sur son cœur, qui signifiait qu'elle était excusée. Ces gestes n'étaient plus en vigueur depuis de nombreuses années, et Chrysia admira la culture de son jeune élève, tout en regrettant amèrement ses paroles. Elle voulut ajouter quelque chose, mais Artus avait déjà pris congé et se précipitait vers la jeune fille qui l'attendait dehors. « Il est parti par là, » lui souffla-t-elle, et ils suivirent tous deux presque en courant la piste de Nox, qu'ils n'eurent, pour cette fois, pas grand mal à remonter. Nox était en grande conversation, avec Tibère, Cléo, Félix et Ciliane. Lorsqu'Artus et Gretel s'approchèrent, tout le monde se tut. Comme pour le combat de ce temps qui opposait souvent les deux frères, la cour des autres s'écarta et se tint en respect. Ce dialogue fut une expérience étrange pour Artus, car chacun des deux jouait son rôle, devant un parterre qui ignorait qu'il fût au théâtre. « Tu perds la tête, Nox !» fulmina Artus. « Qu'est-ce qui te prend depuis ce matin ?»« Oh, voilà le père, la morale, qui arrive !» dit Nox avec ennui. « Tu aurais bien besoin d'une leçon de morale, en effet. Tu ne fais que créer des problèmes là où il n'y en a pas, sans la moindre raison, on dirait que cela t'amuse. »« En effet, petit frère, ça m'amuse beaucoup. » « Eh bien, moi pas, et je te prie de ne pas m'inclure dans tes projets stupides, quels qu'ils soient. »« Qui te dit que j'ai des projets ?»« Je te connais, Nox, je te connais par cœur. » Nox éclata d'un rire où Artus sentit percer le mépris de Sornar. « Tu n'es pas au bout de tes surprises, jeune imbécile !» Sornar venait de commettre une erreur, et Artus se devait de la relever, comme l'aurait fait un garçon de 15 ans, accusé d'être jeune par son frère jumeau. « Jeune imbécile, mais pour qui te prends-tu ? As-tu acquis tant d'expérience pendant la demi-heure que tu as vécue avant ma naissance ?» Les yeux de Nox étincelèrent, puis, sans avertissement, il fonça sur Artus. Malgré les murmures de leurs camarades, ils en vinrent aux mains. Le combat était âpre, beaucoup plus âpre que d'ordinaire, et à plusieurs reprises, Gretel se demanda si Nox ne cherchait pas à blesser sérieusement son frère. Elle retenait son souffle, mais à chaque fois, Artus trouvait une parade de justesse, avec l'intuition tactique qu'il avait toujours caractérisée. Il paraissait lire dans les pensées de Nox et devinait avec une infime avance quel coup allait lui être porté. Exactement comme si... Gretel se sentit troublée, mais alla jusqu'au bout de son idée. Exactement comme s'il utilisait l'esprit. Le combat durait depuis plusieurs minutes lorsque tout à coup, Nox eut un spasme. Artus cessa immédiatement d'utiliser l'esprit et reçut en pleine figure le coup que Nox était en train de lui porter. Puis, sans transition, Nox s'effondra à terre, hagard et pantelant. Artus, essuyant sa lèvre fendue du revers de la main, se pencha immédiatement sur lui, avec une sollicitude sincère. Tous les autres ne purent s'empêcher de se regarder. L'instant d'avant, les jumeaux cherchaient à s'arracher les yeux. L'instant d'après, le plus agressif était devenu hagard, et l'autre, sans la moindre rancune, s'occupait de lui. « Nox !» appelait doucement Artus. « Nox !» Artus avait conscience de l'étrangeté de la scène qu'ils offraient, et se força à dire, quitte à déstabiliser Nox. « Cessons cette bagarre idiote, veux-tu ? » Nox le regardait, avec une grande confusion. « Artus ? » articula-t-il. « C'est moi, Nox, ne t'inquiète pas. » Il se tourna vivement vers Gretel. « Je t'en prie, fais partir tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait de monde quand il est dans cet état-là. » Puis il emmena Nox dans l'une des alcôves du jardin, à l'abri relatif des regards indiscrets. « Nox, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, » murmura Artus dans un sourire. « Je m'inquiétais pour toi. » Artus savait qu'il disposait de quelques minutes pour communiquer avec Nox. Il projetait le bout de son esprit, de manière très furtive, avec une technique qui était bien rodée, afin de détecter la moindre intensification de la présence de Sornar.
« Difficile !» articula Nox.
« Les choses sont en train de changer, Nox. Ta longue attente va prendre fin, bientôt. »«
Mourir ?»«
Sornar doit mourir, » dit Artus à voix très basse. « Et toi, tu seras libre. » Quelque chose comme un sourire fendit les lèvres de Nox. Comme un malade se relevant difficilement de sa paralysie, il mettait beaucoup d'intensité dans chaque mouvement, dans chaque expression du visage et dans chaque mot.
« Bientôt !» dit-il enfin, et Artus le serra dans ses bras, submergé par une vague de compassion.
Il avait les larmes aux yeux, car son frère le serrait aussi avec force et maladresse. L'amour, la pitié et l'angoisse lui comprimaient le cœur, et c'est pendant cette étreinte qu'il pressentit le retour de Sornar. Il ferma son esprit, le rendit indétectable et ne bougea pas un muscle. Les larmes continuaient à couler sur son visage, et dans son cœur, la haine et la peur reprenaient le dessus.
« Tu m'étouffes, Artus !» protesta Nox au bout d'un moment.
Artus, au prix de difficultés infinies, prit un air soulagé.
« Ah, tu m'as fait tellement peur. Je pensais que c'était de ma faute à cause du combat, je ne voulais pas... »«
C'est oublié, » dit Nox, « n'en parlons plus. » Artus se dégagea. Nox, avec une résilience remarquable, était déjà sur pied. Il avait déjà rejoint Tibère et Félice et s'éloignait. Artus, secoué de sanglots convulsifs, se laissa aller à ses larmes, une minute, dans l'alcôve. Il n'aperçut pas Gretel qui s'approchait doucement. Quand il prit conscience de sa présence, elle l'entourait déjà de ses bras frêles et essuyait ses larmes et son sang avec ses mains et ses lèvres. Ils furent en train de s'embrasser sans y avoir pensé et, malgré la douleur de sa lèvre fendue et l'agonie qu'il venait de vivre, Artus sentit une force merveilleuse sourdre de ce baiser et circuler dans tout son être.